Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, Sophie Petronin, enfin libre.
Est-ce que ça existe vraiment la liberté? Vous devez travailler pour manger? C'est une contrainte. Alors on relativise.
L'humanitaire de 75 ans avait été enlevée au Mali en décembre 2016. Elle est attendue à Villacoublé en milieu de journée. Dans l'actualité également, 4 nouvelles villes obligées de fermer leurs bars dès demain. Saint-Étienne, Lyon, Lille et Grenoble.
C'est l'événement musical de cette journée, la nouvelle chanson de Johnny Hallyday, 3 ans après sa disparition. Elle s'appelle « Deux sortes d'hommes ». On aura le plaisir de vous la faire découvrir à 8h15 et nous en reviendrons à 9h dans « Laissez-vous tenter ». La météo, Louis Baudin.
Oui, avec la pluie qui est revenue sur la moitié nord. Elle est en ce moment entre le Val-de-Loire, l'Île-de-France, la Picardie, les Ardennes. Cet après-midi, plutôt entre la région Poitou-Charentes et l'Alsace, Lorraine en passant par le centre. Après son passage, on trouvera quelques éclaircies dans le nord-ouest, mais avec encore des averses. Puis plus au sud, de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée, région Rhône-Alpes, Massif central, là, ça restera encore sec et ensoleillé, avec quelques brouillards ce matin autour de la vallée de la Garonne, mais qui vont vite se dissiper. Les températures baissent un petit peu par rapport à hier, entre 14 et 18 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 19 à 23 dans le sud.
RTL Matin.
Sophie Petronin est donc en ce moment dans l'avion pour Villacoublé près de Paris où elle est attendue en milieu de journée. Elle sera accueillie par Emmanuel Macron. L'humanitaire vient de passer 1384 jours en captivité au Mali et à l'en croire, à 75 ans, elle se porte comme un charme alors qu'on la disait malade et alitée. Écoutez, c'était cette nuit lors de sa libération à Bamako.
Je vais très bien. Je n'ai pas de problème, aucun problème. J'ai vu le médecin, j'ai aucun problème de santé. Je vais bien, j'ai perdu un peu de poids, 4 dents, tchouk, en bas. Donc rendez-vous chez le dentiste en arrivant. Mais autrement, non, ça va bien.
Sophie Petronin avec Mohamed Hag Amedou. Il semblerait que la Française n'ait pas été maltraitée par ses ravisseurs. Anthony Fouchard est journaliste, il est proche des Petronins.
Ce que je peux vous dire de manière certaine, c'est que les ravisseurs ont tout fait pour la maintenir en vie. Ils ont régulièrement fait des demandes de médicaments auprès des intermédiaires qui intervenaient auprès de l'État français. L'État français a envoyé de l'argent, donc des médicaments ont pu être achetés. Et ensuite, ils kidnappaient régulièrement des infirmiers ou des médecins dans le nord du Mali pour venir s'occuper à son chevet, donc dans le campement de Sophie Petronin, des médecins qu'ils relâchaient ensuite à quelques kilomètres des villes.
Propos recueillis par Yann Boucherie. Vous êtes avec nous, Christophe Decroix, chef du service étranger de RTL. On a vu cette nuit l'émotion du fils de Sophie Petronin qui a pu serrer sa mère dans ses bras à son arrivée à Bamako. On peut le dire, la famille n'a cessé de penser et de dire pendant 4 ans que les autorités françaises ne faisaient pas grand-chose.
Oui, c'est souvent le sentiment des familles d'otages pour lesquelles le temps semble interminable. Du côté des autorités françaises, on assure que dès son enlèvement en décembre 2016, des efforts ont été entrepris sans relâche pour obtenir sa libération, mais cela se fait dans la discrétion. Il faut passer par des intermédiaires pour rentrer en contact avec les ravisseurs. C'est long, dangereux, les services secrets sont en action et tout cela réclame de la discrétion. Sébastien, le fils de Sophie Petronin, a été reçu à plusieurs reprises durant ses 4 ans au ministère des Affaires étrangères, ministère qu'il a d'ailleurs assisté quand il se rendait à Bamako. Il y a toutefois eu un couac. Une fois déjà, Sébastien avait cru pouvoir obtenir la libération de sa mère en échange d'une rançon. Et il avait accusé le gouvernement français d'avoir fait capoter la négociation en refusant de la verser. Cette fois-ci encore, il y a eu des difficultés de dernière minute. L'échange des otages contre des djihadistes coupables d'attentats a peut-être suscité des réticences qu'il a fallu vaincre pour que Sophie Petronin retrouve enfin son fils.
Merci beaucoup Christophe Decroix. Et précisons que Sophie Petronin, visiblement en forme, on l'a entendu, a émis le souhait de retourner au plus vite à Gao.
8h05 en France, mesures renforcées à Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne.
Dès demain, ces 4 villes passeront à leur tour en zone d'alerte maximale pour freiner la propagation du virus. Les règles sont désormais connues, protocoles renforcés dans les restaurants et fermeture des bars. Douche froide à Saint-Étienne hier soir, Frédéric Perruche.
Avec la douceur, les terrasses de cette rue piétonne affichent complet, mais ça ne va pas durer. Dès demain matin, plus de café ou bière entre amis, on ferme et Mariana, patronne du bar L'Escale, ne l'accepte pas.
Un gros coup de massue, on va dire ça directement. Je ne sais pas comment on va faire.
Pour survivre ?
Oui, tout à fait. C'est triste. Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus, j'ai plus de repères en fait. J'ai peur de fermer là.
Oui, oui.
Sylvia est étudiante au bord du désespoir.
Je me dis, en soi, on est jeunes, on a envie de profiter. Et à la limite, s'ils veulent fermer les bars, autant nous reconfiner. Parce que sinon, ça veut dire qu'on va vraiment vivre juste pour nos études et c'est tout, quoi. Et c'est dommage, voilà. Donc tu l'as fait, clairement. Voilà.
C'est l'incompréhension qui domine parmi les professionnels, la colère et surtout un sentiment d'injustice, selon Alain, patron de l'Union Jack.
Moi, à ma connaissance, a été remonté dans la Loire, en tout cas, ou Saint-Étienne, aucun cluster dans des bars ou des restaurants. Donc pourquoi nous, on est en fermeture administrative, sachant qu'aucun cluster n'a été développé dans nos établissements. C'est du grand n'importe quoi.
Juste colère de patron de bar au micro RTL de Frédéric Perruge. Et sur le plan sanitaire, on serait encore loin de l'immunité collective en France, même très loin, le seuil communément admis est de 70%. Or, et c'est une étude de l'INSERM qui nous l'apprend ce matin avec des chiffres du printemps, en mai, 4,5% de la population avait des anticorps, une proportion proche de celle observée partout en Europe. Dans l'actualité également, la traque qui se poursuit pour tenter de retrouver les agresseurs des deux policiers blessés à Herblay mercredi soir. L'un des agents est toujours hospitalisé dans un état grave. 300 policiers sont mobilisés.
La France n'en a pas fini avec le glyphosate.
L'herbicide qui pourrait être à l'origine de cancers devait être interdit. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. En 2017, à condition de trouver des alternatives. Et c'est tout le problème, Virginie Garin. L'Agence de sécurité sanitaire publie ce matin ses nouvelles règles. Et disons que l'interdiction n'est pas pour tout de suite.
Alors, les experts ont examiné toutes les alternatives possibles qui sont déjà utilisées par certains agriculteurs et qui permettent de rester compétitifs. Eh bien, il n'y en a pas tant que ça. Pour les arboriculteurs, par exemple, dans un verger, une partie peut être désherbée avec un tracteur, mais sous les arbres même, où la machine risque d'endommager les racines ou les branches, le glyphosate restera autorisé. L'arboriculteur devra simplement réduire les doses et ne traiter que 40% de sa surface au maximum. Même chose pour les viticulteurs. Ils continueront à en mettre juste dessous les pieds de vigne pour ne pas les abîmer avec un désherbage mécanique. Quant aux producteurs de grandes cultures, ceux qui ne labourent pas, ils pourront continuer à en utiliser, mais les doses seront réduites par hectare. Donc, on est très loin d'une interdiction totale. Les quantités vont baisser, mais la plupart des agriculteurs vont pouvoir continuer à utiliser ce désherbant.
Virginie Garin.
Dans un instant, la Corse qui va embaucher des centaines de travailleurs marocains. On vous explique tout ça.
RTL Matin.
8h10, la suite du journal de Jérôme Florin. C'est l'heure de la cueillette des clémentines en Corse.
Et il faut croire que ce n'est pas un savoir-faire français, puisque Lille embauche pour cette tâche 900 travailleurs venus du Maroc. C'est le cas depuis une soixantaine d'années, ben en fait. Un pont aérien est mis en place entre Casablanca et Bastia. Et le premier avion atterrit aujourd'hui en Corse, Julien Fautra.
Oui, c'est en effet au Maroc que les producteurs corses trouvent des cueilleurs formés, les meilleurs d'ailleurs, mais aussi rompus à ce travail physique, explique Joseph Colombani, président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse.
Il y a une difficulté de travail aussi qu'il ne faut pas cacher. Quand on travaille dehors dans des conditions difficiles, moi je ne porte pas de jugement, simplement un constat. Bien entendu, tout le monde peut venir ramasser les clémentines en Corse, sauf qu'on s'aperçoit que ceux qui tiennent la distance, c'est souvent des groupes de travailleurs marocains.
Une opération très critiquée, un pour des raisons sociales, puisqu'il y a 28 000 chômeurs sur l'île, et deux pour des raisons sanitaires, la circulation du Covid. Or, Didier Lesky, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui organise l'opération, assure que le processus médical est strict.
On les teste en test PCR avant de partir et on les reteste après l'arrivée et 7 jours après. Donc il y a moins de risques avec ces saisonniers qu'il n'y en a eu pendant toute la saison touristique. Donc c'est une fausse crainte et je crains que justement elle soit amplifiée parce qu'il s'agit de personnes qui viennent du Maroc. Si elles venaient d'Île-de-France, il y aurait moins de crainte.
Les avions ont aussi été prévus pour le retour des saisonniers dans 3 ou 4 mois, une fois la dernière clémentine cueillie.
Julien Fautra, journée riche à Roland-Garros aujourd'hui avec les demi-finales messieurs. Raphaël Nadal, Diego Schwartzmann à partir de 15h, puis Novak Djokovic contre Stefano Tsitsipas.
L'histoire du jour, je vous prie.
La barbarie n'a plus de limite. Aux États-Unis, des gardiens de la prison d'Oklahoma ont été inculpés pour actes de cruauté. Ils avaient fait écouter en boucle à des détenus la comptine pour enfants Baby Shark. Les prisonniers étaient même réveillés en pleine nuit pour écouter ça, enchaînés à un mur. Les gardiens risquent un an de prison. Ils pourraient à leur tour s'exposer à ça en boucle. C'est affreux.
C'est la cruauté. C'était donc le journal de Jérôme Florin.